tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
On ne mourra pas d'en parler.
Bonjour, on ne mourra pas d'en parler, l'émission du joli mois de mai. Je vous avais dit le mois dernier qu'on allait parler des métiers du funéraire. On va surtout se concentrer pour cette partie sur les métiers de l'accompagnement et des défunts, des futurs défunts et des familles. Et donc il y a deux invités pour vous renseigner. Il y a Vanessa Legros qui est Tanadoula et il y a Noémie Robert qui est célébrante laïque. Et moi je vais faire la première partie où mon travail c'est conseillère funéraire, c'est ça qui m'a fait m'intéresser au métier du funéraire, créer l'association Thanatosphère et animer cette émission. Donc je vais vous parler un peu de mon quotidien quand j'étais en agence funéraire. Le conseiller funéraire, c'est la personne que vous rencontrez en général quand vous poussez la porte d'une agence. On est là derrière nos bureaux, souvent on a un écran d'ordinateur parce que tout se passe beaucoup par une interface, surtout dans les grandes agences. Et puis on va être là pour vous renseigner sur la législation et puis aussi évidemment savoir ce dont vous avez besoin, quelle est la situation, ce que vous avez envie d'organiser comme type d'obsèques, quelles sont vos valeurs. On va essayer de comprendre quel type de famille vous êtes, la personne que vous venez inhumer, quelle personne elle était aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qui était important pour elle, pour vous. Et comme ça, on va, en un temps qui est plus ou moins long, pouvoir prendre des informations qui sont et administratives et aussi sur votre sensibilité, vos émotions, vos références peut-être culturelles aussi, esthétiques, artistiques, pour pouvoir vous aider à créer les funérailles qui seraient idéales et qui vous permettent d'honorer avec réconfort la personne l'être que vous venez de perdre. Et donc notre métier, nous, conseillers funéraires, c'est aussi beaucoup d'administratif, parce qu'on a besoin à ce moment-là de récupérer plein d'infos sur l'état civil du défunt, sur la personne qui est responsable pour l'organisation des funérailles, parce qu'en fait, le challenge pour nous, c'est un petit peu d'arriver à avoir toutes les autorisations dans un temps qui est limité, on va dire, parce que il faut envoyer les documents aux mairies, et puis on a 6 jours ouvrés pour procéder aux funérailles en général. 6 jours ouvrés, ça veut dire qu'on ne compte pas les dimanches ni les jours fériés, et on commence à compter au lendemain du jour du décès de la personne. Mais pour nous, cette rapidité, elle est normale, enfin c'est notre rythme habituel de travail, donc pour vous, ça peut vous paraître peut-être un peu difficile, mais sachez vraiment que dans la façon dont vous allez rencontrer le conseiller funéraire, vous avez quand même le temps, en fait, de vraiment prendre le temps de vous renseigner et puis de décider de ce que vous pouvez avoir envie d'organiser comme cérémonie. Donc, il ne faut pas hésiter à peut-être faire plusieurs rendez-vous. Et puis, il y a toujours des possibilités de demander des dérogations pour l'organisation des funérailles. Et donc, vous n'êtes pas non plus pressé à devoir vous renseigner, enfin, à devoir décider immédiatement de ce moment qui va quand même être très, très important pour la façon dont vous allez vous rassembler. Vous allez, grâce à ce rassemblement, vous renforcer. Enfin, les choses vont être aussi plus peut-être faciles à vivre par rapport au deuil si la cérémonie est juste par rapport à vous, au défunt, à ce que vous aimiez, à ce que vous aviez envie de créer. Donc, la qualité du conseiller funéraire, c'est vraiment d'être très au courant de la législation. Pas non plus d'être trop zélé dans la législation, parce que la législation autour des funérailles, elle est quand même aussi très, très libre, on va dire. Il y a quand même la possibilité de faire énormément de choses, ce qui n'est pas forcément assez connu. Et donc, c'est vraiment de comprendre quels sont vos besoins, quels sont, évidemment, il y a des choses qui sont un petit peu techniques, savoir où la personne est décédée, où elle souhaite être inhumée ou crématisée. Et puis, de pouvoir aussi vous faire peut-être des fois des suggestions, puisque vous n'êtes pas forcément au courant de ce qu'il existe. En tout cas, pas de décider à votre place, on va dire, de ne pas vous proposer une prestation toute faite, mais d'être vraiment à votre écoute et de respecter vos rythmes et puis la situation dans laquelle vous êtes. Parce que le plus difficile pour nous, peut-être, ça va être de... Enfin, moi, ce que je trouvais, c'était que les familles, souvent, c'était difficile. Et puis souvent, c'est suite à une agonie qu'elles venaient dans l'agence. Et donc, elles sont souvent très fatiguées, éprouvées. Et donc, c'est un petit peu compliqué d'être dans un état de détente pour pouvoir aborder ce type de questions tranquillement. Donc, c'est d'arriver à poser les choses et puis à reprendre du temps et puis surtout à reposer l'idée que c'est la famille qui va décider de ce qui va se passer et que nous, on est là au soutien pour informer et pour dire si techniquement on peut faire les choses ou pas et sinon pour organiser les choses. Et donc, c'est vraiment vous qui avez tout... Le conseiller funéraire, il est vraiment au service. Il est complètement à votre service. Et c'est ça qui est, je trouve, fabuleux dans ce métier, c'est qu'on est... vraiment à écouter et surtout pas à vous proposer des prestations clés en main qui sont en général décalées par rapport à ce que vous auriez pu vouloir vivre. Donc voilà, c'est et de l'information funéraire, c'est et de l'information sur la prestation commerciale que peut proposer l'agence et puis surtout de comprendre, vous, qu'est-ce que vous avez envie qu'on réalise pour vous. Et moi, c'est ce travail de un peu sur mesure que j'aime beaucoup dans le métier. Donc ça, c'est pour comment ça se passe, pour vraiment l'organisation des obsèques, on va dire. Après, il y a d'autres manières d'appréhender, peut-être des fois plus en amont, d'un accompagnement qui serait peut-être plus personnalisé, en tous les cas, qui est pas encore très répandu, il me semble, en France, qui est de faire appel à une tanadoula pour accompagner. C'est avant les funérailles, vraiment. C'est au moment où il y a... Enfin, il me semble, hein, vous me direz, Vanessa, si je me trompe, parce que moi je suis néophyte, donc c'est très intéressant pour moi d'accueillir Vanessa, de savoir qui est cette personne qui va accompagner peut-être les défunts et la famille, mais je vais laisser Vanessa nous expliquer ce que c'est déjà, qu'est-ce que c'est qu'une tanadoula.
Eh bien, merci Agathe et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Vanessa Legros et je suis tanadoula ou doula ou accompagnante de la fin de vie. Tous les termes sont justes. En fait, on est là pour, auprès de vous, pas à pas, dans l'épreuve que vous traversez, ou ponctuellement pour passer un cap difficile. Et donc, à l'écoute de votre situation et de vos besoins, eh bien, on se rend à domicile ou à l'hôpital. Et puis parfois, on a un cabinet, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je travaille à domicile ou à l'hôpital ou en pleine nature. Ce métier de tanadoula est encore assez méconnu en France, mais il est reconnu dans de nombreux pays comme le Canada, la Suisse, ainsi qu'en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Et là, le rôle des tanadoulas, ou accompagnants de fin de vie, donc comme vous l'aurez compris, a très largement prouvé son utilité auprès des personnes mourantes et leurs familles pour le soutien tant pratique que moral qu'il apporte. Alors, un tout petit peu d'étymologie.
Oui.
Donc, thanatos, la mort en grec, et doula en grec, ça vient du grec ancien.
C'est du grec.
Oui, c'est du grec. Le terme grec signifie la servante. Donc, la doula, en fait, elle intervient à différents moments, donc souvent dans la naissance, mais aussi dans la mort. En tout cas, que ce soit au moment de la naissance ou de la mort, la doula n'est pas qu'une servante. En fait, c'est surtout une personne ressource.
Et... C'est-à-dire que la famille va vraiment... C'est en général la famille qui vous appelle ou c'est la personne qui est en fin de vie ?
Alors, tout est possible. Ça dépend un peu du moment où on intervient. Quand c'est en amont, ça peut être aussi bien la personne qui est en fin de vie que la famille qui accompagne cette personne en fin de vie. Il peut arriver que je suive à la fois la famille et la personne qui est en fin de vie. Si, bien sûr, c'est après le décès, bien naturellement, c'est plutôt là un accompagnement autour du deuil. En tant que tanadoula, je suis souvent contactée pour des deuils qu'on appelle le deuil périnatal ou pour les deuils d'enfants aussi. C'est une spécificité pour laquelle moi, je suis souvent contactée. Mais c'est sans doute aussi parce que j'accompagne les naissances et que je suis
Vous êtes référencée, effectivement,
au côté périnatalité. En tout cas, moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement donc, de la fin de vie et du deuil, donc, j'accompagne les personnes en fin de vie et leur entourage, donc, comme je le disais avant et après le décès, à la fois dans la période du deuil et à la fois donc, en amont ou en après.
Et ça veut dire que, par exemple, vous allez réfléchir ensemble sur la cérémonie, sur peut-être... Moi, je me souviens d'un documentaire où il y avait une Tanadoula, je crois que c'était aux États-Unis, et elle invitait, elle accompagnait la famille à laver le défunt. C'était
oui.
Quelque chose qui faisait...
Alors, en fait, la doula, donc je vais revenir là du coup au sens historique, à la fin, c'est la servante. C'est-à-dire que moi, en tant que doula, je suis là pour faire en sorte que les souhaits de la famille ou les souhaits de la personne qui est en fin de vie soient possibles et soient réalisés dans la mesure de la législation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais à partir du moment où il y a un souhait, une envie qui est émise, eh bien, on fait tout et je fais tout pour aider les personnes à pouvoir réaliser ce souhait si pour elles ça a un sens.
Donc les gens ont déjà une idée, ils ne vous appellent pas avec aussi l'idée d'être accompagné, aidé au sens où ils seraient un petit peu perdus et vous pourriez aussi les aiguiller si ça existe.
Voilà, parfois on est un peu perdu comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une période intense et on n'a pas toujours une idée très précise, on n'a pas toujours prévu ce qui allait se passer et c'est toute la magie je dirais de l'accompagnement, c'est qu'enfin on prend le temps. C'est surtout... ça, aujourd'hui, je dirais la qualité principale de ce que peut vous offrir une doula, c'est que vous allez avoir un véritable espace de parole et de temps qui va être ouvert autour de la mort ou autour du deuil. Et ensemble, on va prendre le temps donc, de réfléchir à ce qui vous semble juste, à ce qui vous semble être la façon dont vous avez envie d'accompagner ou de réaliser vos funérailles.
Donc, votre espace, vos outils, c'est de créer un espace de parole et de discussion autour de ce qui est en train de se passer.
Très clairement.
Et de ce qui va arriver.
Très clairement. Et moi, voilà, dans ce contexte-là, donc, je peux être soit à domicile, soit à l'hôpital. Des fois, on m'appelle pour une heure parce que on a juste besoin de déverser quelque chose, de déposer quelque chose de lourd. Des fois, ça peut être pour une demi-journée ou une journée quand il y a quelque chose de plus important à aller creuser ou on ne le sait pas forcément. Mais alors, ça peut être aussi bien dans une maison qu'à décider d'aller marcher en forêt pour faire émerger des choses. Et puis moi, dans mon sac, alors j'ai mon sac de Mary Poppins, c'est ma référence parce que c'est mon époque. Mais surtout, mes outils, c'est mon écoute. Des fois, j'ai des bouquins, des ressources, un peu d'huile de massage parce que ça fait du bien d'être touchée. Mmh. Et puis, du chant parce que j'adore chanter. Je crois que d'ailleurs, tout à l'heure, on va entendre une chanson que j'aime beaucoup. Mmh. Et puis, bien sûr, mon empathie et l'intuition. Voilà. Et on laisse passer ce qui doit arriver.
Et donc ça, vous proposez ça souvent, c'est des groupes ou c'est plutôt des individus qui...
Tout est possible. Il n'y a pas de règle, en fait. Des fois, c'est des familles et des fois, c'est des individus. Après, même si c'est dans un espace groupe, il y a toujours un temps individuel qui est proposé afin que chacun, justement, puisse trouver son propre espace pour pouvoir déposer sa propre histoire et son propre vécu autour de ce qui est en train de se passer.
Et des fois, est-ce que vous utilisez... Vous êtes peut-être... c'est-à-dire les gens viennent vous parler de manière individuelle et après vous faites une restitution peut-être au collectif pour que les priorités des uns des autres soient...
C'est très variable. Là, je vais avoir du mal à dire une conclusion parce qu'en fait, chaque histoire est comme chaque personne, c'est unique. Et en fait, c'est selon le souhait de chacun. Parfois, ce qu'on vient chercher, c'est justement la possibilité de déposer quelque chose qui ne sera pas dit ailleurs et qui ne sera pas jugé et qui sera pleinement accueilli pour ce que c'est. Et sans que forcément la belle-sœur ou le frère ou l'oncle ne soit informé de ce qui se passe. Et c'est en ça la spécificité, je crois, de l'accompagnement de la doula. C'est qu'à la fois, vous avez un peu le côté confessionnal avec... Il n'y a aucune connotation religieuse, mais en fait, je suis vraiment tenue au secret. Et donc, ce qui est déposé à la doula reste entre la personne et la doula.
D'accord. Moi, j'avais l'idée, oui, d'un accompagnement plus sur le long terme, où on accompagnait vraiment la fin de vie, alors que non, on peut vous appeler pour une heure, pour une demi-journée, comme vous dites, et puis pour des prestations qui sont... marcher dans la nature, j'aurais pas du tout pensé à ça.
La marche, c'est très intéressant, justement pour faire émerger, pour s'extraire un peu du quotidien. Et c'est souvent un contexte que je propose si les gens sont en capacité d'aller dans la... Alors, on n'est pas obligé de gravir des montagnes incroyables, mais le cadre extérieur et la marche sont souvent permettent de s'extraire justement du mental et de laisser aller et de laisser s'exprimer les émotions et offrir un cadre plus ouvert au partage et voilà à l'émotion.
Et les personnes en fin de vie aussi vous sollicitent ?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui. Bon. Alors là, c'est pareil, ben, je m'adapte en fait à ce qui se passe pour eux. Si c'est à l'hôpital, eh bien, je me rends dans un service. Si c'est dans... enfin, quel que soit le contexte, c'est la doula qui vient à vous.
Ok, ben, c'est intéressant. En tous les cas, si les gens veulent vous contacter, on mettra vos coordonnées sur le site de l'émission.
Oui, merci.
Et merci beaucoup pour toutes ces informations et puis pour ce service que vous rendez. Et on va passer à la plage musicale, une merveilleuse chanson que je vous laisse découvrir.
Alors, la prochaine chanson, c'est une chanson sur le deuil. C'est une lettre que j'ai écrite à ma mère. Mais avant de vous la faire, j'aimerais vous lire sa réponse. Parce que figurez-vous qu'elle m'a écrit une réponse et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. La chanson s'appelle « Vivant ». Mon petit garçon. Elle m'a toujours appelé mon petit garçon, alors je vois pas pourquoi une fois morte, ça changerait. Ton titre ici, ça fait un carton. Vivant chez les morts, c'est l'équivalent chez vous de Happy de Pharrell Williams. T'es partout, dans les bars, sur les affiches des bus, parce qu'il y a beaucoup de bus, sur les t-shirts des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, figure-toi, je savais pas, mais quand t'arrives au paradis, on te demande de choisir une apparence. Alors moi, j'ai pris Ava Gardner, parce que bon, pourquoi pas. Et puis on m'a dit que non, qu'il fallait choisir parmi les apparences que t'avais déjà eues dans ta vie. Alors là, j'ai pris 33 ans, le temps de faire la promo de ton album, mais après, je me reprends 19. C'est quand même quelque chose d'avoir 19 ans, on s'en rend pas compte, mais pfff. Le pire, c'est les seins, j'avais complètement oublié, c'est extraordinaire. Bon, évidemment, je suis ravi que tu m'aies écrit une chanson, elle est super belle, en plus c'est fin, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est réjouissant alors que c'est quand même triste, c'est bien produit. Ben, c'est ma mère, hein, elle n'est pas complètement impartiale. En revanche, je dois dire que j'aurais quand même préféré que tu m'écrives une chanson de mon vivant, sans mauvais jeu de mots. J'aurais préféré un petit mot gentil en bas qu'un grand mot gentil ici, mais bon. Alors j'imagine que tu as des questions à me poser, comme c'est pas non plus évident de correspondre entre nos deux mondes et que tu n'auras pas la possibilité de répondre à mon courrier, j'ai essayé d'imaginer ce que tu avais envie de savoir, et te connaissant, tu dois te demander comment sont les rapports humains. Moi j'imaginais qu'une fois mort, on pouvait aller tranquillement boire des coups avec qui on veut, alors j'avais fait ma liste et j'étais très motivé à l'idée d'échanger avec ta grand-mère, bien sûr, mais aussi avec Steve McQueen et Elvis Presley. Alors ta grand-mère, c'est pas un problème, on se voit souvent. Elle est plus jeune que moi, et c'est pas la dernière avec les garçons, ce qui a pu un peu me surprendre au début, mais là, ça y est, on s'apprivoise. En revanche, Steve McQueen et toutes les autres stars, d'ailleurs, restent très connus ici, aussi. Ils sont toujours entourés de milliers de personnes, les pauvres, c'est particulièrement compliqué de les atteindre. Donc leur technique, c'est de prendre des apparences d'enfants. Ici, il n'y a pas une star qui dépasse les 6-7 ans, comme ça, on ne le reconnaît pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'hier, j'ai pensé à toi, en poussant un gamin très mignon à la balançoire, je l'entendais chantonner, figure-toi que c'était Georges Brassens. Donc je passe la majeure partie de mon temps en famille, même si tes grands-parents ne sont plus ensemble ici, c'est quand même très sympa. Ensuite, à quoi ça ressemble ? Alors ici, on n'est pas en train de marcher à moitié nu sur des nuages. Je dirais plutôt que ça ressemble au Luberon au printemps, un peu. Il fait beau, il fait pas trop chaud, c'est vallonné, j'adore. Pour se déplacer, rien de plus simple, il suffit de le vouloir et hop, c'est fait. Enfin, comment je fais pour te voir ? Ça, je te dis pas parce qu'on peut pas dire, mais je peux quand même te préciser qu'il est très beau, ton nouveau petit garçon, et qu'elle est très laide, ta nouvelle coupe de cheveux. Allez, au cœur, prends soin de toi, ici, on t'attend pas.
Qui tremble, c'est plus facile de s'interdire de l'évoquer. Je pense à toi mille fois par an, j'essaie pas de faire autrement, même s'ils me disent laisse le temps faire ses affaires. Et pour te garder vivante, je te raconterai l'ardente épopée de ton équipe d'hier. Et je ne pallierai pas l'absence, c'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance. De faire tout pour que ça reste, je ne pallierai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux gens. De faire tout pour que ça reste vivant, vivant, vivant. J'écris depuis mon antre, depuis le mois de novembre, depuis que le froid s'est pointé. Après le déni vient la colère, et comme je suis pas très énervé, je me dis, j'ai pas trop avancé, mes affaires, pas mal, mille ans grandit, ça c'est normal. Et à chaque fois je réalise que je peux pas t'appeler pour ces progrès, je me dis que la mort mène d'un regret, mais aussitôt j'égalise. Et je ne pallierai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance. Et de faire tout pour que ça reste, je ne pallierai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite, de rappeler ton élégance aux gens. Et de faire tout pour que ça reste vivant, pour que ça reste vivant. Troisième étage, je te parle comme on parle au mirage, et je me souviens. Et quand je t'ai dit de mourir sereine, que je serais solide, que j'ai de la peine, mais que tu m'as donné les armes, et tes réponses, mon credo, sont gravées sous mes abdos. C'est pas comme ça qu'on tourne la page, et tes conseils tatoués, cicatrisés au sel dans chacun de mes virages. Il y aura ton visage.
Petit message de l'au-delà. Moi, je trouve ça vraiment très émouvant, cette correspondance entre les proches et les lointains. Alors maintenant qu'on a découvert le travail du conseiller funéraire, les services des tanadoulas qui peuvent se faire en extérieur, c'est vrai que la marche, ça rythme et ça libère. Ça peut être très intéressant. Je viens moi-même de faire une grande marche ce matin parce que j'étais un peu dans des difficultés personnelles et c'est vrai que je suis très, très détendue. Je confirme. Et maintenant, on va explorer le travail de Noémie Robert, qui est célébrante laïque. Alors, elle n'est pas dans notre coin, donc du coup, on est au téléphone avec elle, mais normalement, la liaison est bonne. Et alors, son travail consiste du coup, à célébrer, j'imagine, des cérémonies. Laïque, ça veut dire que ce n'est pas dans un cadre religieux, et elle va nous en dire plus. Noémie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta profession ?
Oui, alors un petit peu comme Vanessa tout à l'heure, le nom de ma profession, c'est un nom qui est assez fluctuant en fonction de la personne qui incarne ce métier. Moi, je me présente aujourd'hui comme célébrante de funérailles civiles. Là où je me suis formée en Suisse, il se présente comme officiant en funérailles laïques. Voilà, donc les termes peuvent être assez variants. Mon métier aujourd'hui, c'est un peu le miroir du rôle social du prêtre. Le prêtre, il va accompagner la cérémonie religieuse, il va être en complémentarité des pompes funèbres, accueillir les familles à la paroisse pour préparer le contenu de la cérémonie avec elles ou avec l'équipe paroissiale. Et puis après, il va officier la cérémonie. Bah là, c'est un petit peu la même chose dans le déroulé qui va se passer, mais dans un cadre entièrement civil, laïque, qui va pouvoir accueillir les personnes avec la diversité de leurs croyances ou de leurs non-croyances. Et donc moi, je vais être là en complémentarité des pompes funèbres pour aller préparer vraiment le contenu de la cérémonie.
En complémentarité, ça veut dire que à quel moment vous vous rencontrez avec les pompes funèbres ? Parce que moi, par exemple, j'ai pas encore eu cette chance de collaborer avec une célébrante laïque quand j'organisais des funérailles.
À minima, on va s'appeler avec la pompe funèbre dès que la mise en relation avec la famille a été faite. D'ailleurs, cette mise en relation avec la famille, soit elle se fait directement par la famille qui va me contacter, et après je vais contacter la pompe funèbre pour qu'on fasse connaissance, soit c'est la pompe funèbre qui va proposer à la famille que je puisse les accompagner. Et dans ce cas-là, la mise en relation est faite via la pompe funèbre, donc ils sont déjà au courant que je vais accompagner la famille.
D'accord.
Donc voilà, donc il va y avoir ce temps déjà d'échange pour avoir toutes les informations techniques, logistiques, que je comprenne aussi quelles sont les contraintes de la pompe funèbre en termes d'horaire par exemple, ou est-ce qu'ils connaissent déjà le cimetière ou le lieu dans lequel il va y avoir la cérémonie pour que ce soit le plus facile possible pour eux. Et puis ensuite, on va se voir bien évidemment le jour de la cérémonie également. Potentiellement, on va également, quand on a des lieux de cérémonie qui sont un peu atypiques, on va peut-être faire un repérage ensemble aussi pour qu'il y ait plus de fluidité possible au jour de la cérémonie.
Des lieux de cérémonie atypiques, c'est-à-dire que c'est vous qui proposez des espaces ou c'est les familles en général qui veulent que ça se passe dans un lieu qu'elles ont décidé ?
Alors, c'est pas, enfin, oui, ça va être les familles qui vont choisir le lieu, mais c'est surtout qu'on manque énormément de lieux de cérémonie civile en France. On n'en a, pour ainsi dire, pas. Il va y avoir les salles du crématorium avec les contraintes horaires qui sont les leurs. Comme ce sont des équipements qui sont très, très sollicités, assez fréquemment, il va y avoir des temps pour faire les cérémonies qui vont être restreints à 20 minutes, une demi-heure, à moins qu'on demande à avoir un double créneau. Mmh. Et donc, dans des petits villages, par exemple, on va pouvoir demander à utiliser la salle des fêtes. On va pouvoir, si c'est possible, la faire en extérieur.
Oui.
Par exemple, là, dans l'Aveyron, on l'a faite sur... c'était l'espace Boulodrome. On avait retrouvé le nom historique parce que la famille n'était pas très à l'aise à indiquer que, sur la vie d'obsèque que c'était sur le Boulodrome. Mais on l'a fait sur la place centrale du village, sous les arbres. Les services techniques de la mairie nous ont amené des bancs et on a pu créer comme ça un espace de cérémonie en plein air.
D'accord, avec la collaboration des services techniques de la mairie, c'est bien ça.
Exactement, ouais.
D'accord. Et alors du coup, la différence entre le maître de cérémonie qui est dans les pompes funèbres classiques et ce que vous allez préparer, vous, comme hommage, c'est quoi ?
Ça va être le temps qu'on y passe, d'abord. Mmh. Aujourd'hui, dans le modèle économique actuel des pompes funèbres, il n'y a pas de temps rémunéré dédié à la préparation de la cérémonie. Mmh. Et c'est relativement rare qu'il y ait un second rendez-vous au sein de la pompe funèbre pour préparer le contenu de la cérémonie. Tu parlais tout à l'heure de toutes les missions, toutes les tâches administratives qui étaient faites par le conseiller funéraire. Le premier rendez-vous qui est fait à la pompe funèbre avec les familles, c'est souvent un temps qui est extrêmement dense, où il y a beaucoup de prises de décision, beaucoup de papiers à régler. On n'a pas forcément la tête pour directement faire la bascule et passer à la symbolique, d'une certaine façon, au contenu, de se dire « Ok, et qu'est-ce qu'on va vivre ensemble à ce moment-là »
Oui, ce rendez-vous est très terre-à-terre en général, oui.
Voilà, et vraiment jongler. Alors, il y a forcément des éléments, des choses qui vont ressortir d'un premier rendez-vous avec le conseiller funéraire qui peuvent avoir une importance et qu'on va pouvoir reprendre ensuite dans la cérémonie. Mais moi, le temps de préparation qu'on va passer ensemble, qui peut être le même jour, quelques heures après ou le lendemain, on va prendre entre 1h30 et 3h pour vraiment prendre le temps d'explorer de quoi est-ce que la famille, de quoi est-ce que les vivants ont besoin pour cette cérémonie, en quoi c'est important pour eux que ce soit une cérémonie civile. Mmh. Et puis ensuite qu'ils me racontent, c'était qui pour eux leur défunt.
D'accord.
Et pour eux, c'est vraiment pas rien, puisque une partie de mon métier, ça va être de redonner à chacun qui était son défunt pour lui.
Ok.
Et de pas faire un portrait abstrait, en quelque sorte, qui serait déconnecté, et d'essayer de tirer un individu qui serait pas relié aux autres, puisqu'on est tous une espèce de boule à facettes avec un entremêlement de relations autour de nous, et on n'est pas la même personne avec ses parents, avec son conjoint, avec des amis. Mm-hmm. Et pour moi, il y a une importance là à venir retisser, redonner le lien aussi à chacun qui est relié à cette personne avec le défunt ou avec la défunte.
Et est-ce que dans la façon dont tu interviens ou dont les célébrants laïcs interviennent, il y a aussi la possibilité quand même pour des proches de parler, de faire des...
Bien sûr.
Oui, vous les incluez.
Oui, bien sûr. Okay. En fait, mon rôle, c'est à la fois d'aller collecter cette histoire, de la mettre en forme pour la cérémonie, de la restituer, mais surtout d'accompagner la famille à être actrice de ce moment-là.
Ok.
Et en fait, penser la participation, l'implication de la famille dans la conception de la cérémonie et dans le moment de la cérémonie, c'est aussi leur ouvrir d'autres espaces que simplement, si je puis dire, prendre la parole. Parce que pour plein de familles, c'est pas forcément évident. Pas évident d'écrire, de prendre la parole. Alors, il y a l'effet de l'émotion, il y a aussi des personnes qui sont pas à l'aise avec l'écrit, d'autres qui n'ont pas envie de dévoiler une partie de leur intimité comme ça devant une assemblée, qui voudraient juste le dire peut-être à leur défunt ou d'une autre manière. Et donc, moi, je vais être là aussi pour trouver des espaces avec eux sur d'autres façons dont ils vont pouvoir participer s'ils le souhaitent. Ça peut être dans la façon dont on va penser l'espace, ça va être la façon dont on va penser un geste symbolique, mmh. On va appeler un rituel, ça va être plein de choses comme ça. Moi, je vais être un peu avec une espèce de boîte à outils, de plein de choses que je vais pouvoir leur raconter pour aller petit à petit mettre un peu de l'huile dans les rouages de nos imaginations, aller se dire « Ah ben ça, ça me parle pas, mais par contre, ça me fait penser à » et d'aller enclencher petit à petit ce processus-là.
D'accord. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant d'avoir comme ça un tiers, c'est que tout le monde peut participer librement, enfin sans implication aux funérailles. C'est-à-dire parce que si c'est quelqu'un des personnes de la famille qui ont à la charge de l'organisation des funérailles, parce que même si les pompes funèbres le font, il reste toujours souvent pour la cérémonie une partie pour la famille, on a l'impression qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres, au sens de, ben, en fait, ils sont là en train de faire des choses et pas de vivre les émotions qu'ils traversent au moment de ces obsèques. Donc je pense que...
En fait, ce rôle-là d'officiant pour les funérailles civiles, ça permet à la famille de ne pas avoir la charge de porter la cérémonie. Ouais. Et du coup, de pouvoir la recevoir à sa place d'endeuillé, et pas dans un rôle de tiers, parce que ce tiers, qu'il soit le prêtre, qu'il soit un officier d'état civil, qu'il soit dans différentes situations, on peut avoir qu'il peut être le maître de cérémonie des pompes funèbres, il vient aussi reconnaître que le défunt n'était pas seulement un père, une femme, un enfant, un cousin, que sais-je, mais était d'une certaine façon l'enfant d'une communauté ou une personne, voilà, avec tout un tissu d'appartenance différente, une personne aussi avec sa propre singularité. Et ça, c'est difficile de pouvoir apporter cette reconnaissance-là, de cette individualité-là, quand on est soi-même en train d'accepter, de prendre acte de la perte d'un lien qui nous unissait à cette personne.
Tout à fait, c'est très intéressant et je pense que c'est une fonction qui est vraiment utile pour les familles. Alors je ne sais pas si vous êtes beaucoup à travailler en France, si c'est courant d'avoir ce service.
On n'est pas beaucoup, déjà parce qu'il n'y a pas de formation en France spécifique à la célébration de funérailles civiles. Les formations des métiers du funéraire qui incluent ce métier de maître de cérémonie, ils ont très peu de temps dédié au contenu de la cérémonie et en particulier au contenu de la cérémonie civile. Dans l'organisation actuelle, on transmet avant tout aux maîtres de cérémonie à avoir des catalogues de textes pour qu'ils puissent être le plus
les fameux poèmes.
Les fameux poèmes qu'on voit revenir souvent. Et d'une certaine façon, ils recréent du rituel, ces poèmes-là, parce qu'ils sont aussi rassurants pour des familles qui parfois l'ont déjà entendu ailleurs. Bon, bah, c'est un repère, on sait où ça commence, on sait où ça finit. Pourquoi pas, pour certains, ça convient. Et puis pour d'autres, on se dit, on aimerait quelque chose d'autre. Moi, il y a cette phrase de Delphine Horviller qui me touche énormément, qui dit « Pourvu qu'à nos enterrements, il nous soit permis de ne pas nous résumer à nos morts et de faire sentir combien dans la vie nous avons été en vie. » Et moi, je suis convaincue que ce moment-là, des funérailles, ça peut être un temps qui va venir apporter du réconfort, du soutien pour la suite du chemin des endeuillés, qui peut relier la communauté des vivants entre eux, et où on peut justement ne pas seulement raconter la fin, ne pas seulement raconter le décès, ne pas seulement faire une espèce de CV de la personne date à date, mais aller raconter des anecdotes, comme brosser un tableau de la personne, aller raconter plusieurs histoires, aller aussi passer, parce que moi je parle aussi avec ma posture de conteuse, aller mettre du sens un peu plus large pour mettre un peu de respiration dans cette histoire-là. Et oui, donc pour revenir à ta question, en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en France à faire ce métier-là. Je pense qu'on doit être une vingtaine peut-être à exercer aujourd'hui au grand maximum.
D'accord. Je pense que c'est vraiment très utile. Ça peut être très utile pour les familles. Et c'est bien résumé ce moment que je trouve assez fabuleux dans les funérailles, où on est dans plein d'espaces-temps différents et dans des types de relations différentes. Et il y a comme une espèce de science-fiction, je trouve, au moment où on vit des funérailles, où on est à plein d'endroits différents avec des gens qui sont en fait multiples. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Donc c'est court, c'est une demi-heure pour avoir des informations sur notre avenir à nous tous. Et il y aura la suite le mois prochain, puisque le mois prochain, on continue avec les métiers du funéraire, mais plus sur le fossoyage, les porteurs et les maîtres de cérémonie classiques des pompes funèbres. Mais merci beaucoup à vous pour vos interventions. Donc, il y aura vos coordonnées sur le site de l'émission. C'était court, mais c'est une première peut-être information et on pourra peut-être faire d'autres émissions. Alors, en général, je termine par l'agenda de l'association. Comme j'étais un peu plus longue pour laisser parler les invités, en fait, je vais juste vous inviter d'aller sur le site de Thanatosphère. Vous aurez toutes les informations dans l'agenda et même il y a une newsletter qui devrait partir jeudi. Donc, si vous souhaitez tout savoir, vous inscrivez à la newsletter et ce sera facile. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, Noémie. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
La mort est une fin normale en soi.